Radio Caravane.
Radio Caravane. De l'ombre des coulisses
à la lumière de la piste.
Radio Caravane.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Caravane. Aujourd'hui, nous accueillons Léa V. Curtis pour une interview spéciale.
Bonjour Léa.
Bonjour.
Voilà, on a vu que tu faisais pas mal de trucs, notamment dans l'art, le tatouage, le design.
Ouais.
Peut-être que tu peux commencer par nous parler de ton parcours.
Bah ouais, carrément. En fait, quand j'étais au lycée, je voulais faire des trucs artistiques, mais j'y vais à la campagne, il n'y avait aucune option artistique. Je pensais vraiment pas faire ce genre de métier. Dans mes études, je me suis orientée dans l'art, mais plus tout ce qui est histoire de l'art, médiation, tout ça. Et en fait, j'ai fait jusqu'à un master recherche en art appliqué. Et en fait, quand tu sors de master recherche, il n'y a pas vraiment de travail.
Ouais.
Du coup, je me suis dit, bon, je tente le tout pour le tout et je vais essayer de me lancer dans l'illustration, tout ça. Et en fait, très vite, j'ai toujours aimé le tatou. Avant de faire du tatou, j'étais déjà quelqu'un de beaucoup tatoué. Et j'ai un peu, pareil, tenté sur un coup de tête en mode « on sait jamais ». Et en fait, maintenant, c'est mon métier, quoi, et ça marche.
Ouais, c'est trop cool.
Ouais, mais c'était un peu la loterie, quoi.
Ouais.
J'ai tenté, ça, j'ai gagné, donc c'est super.
C'est vrai que ça n'a pas l'air évident dans ce milieu. Par rapport au tatouage, enfin, t'as ton style maintenant de tatouage. Tu l'as trouvé... Assez tôt, assez naturellement, ça a toujours été...
En fait, à la base, quand même, avant de faire du tatouage, je dessinais quand même beaucoup et je faisais de l'illustration, donc j'avais quand même un style déjà un peu à moi. Et c'est vraiment, je me suis intéressée, je pense, comme beaucoup de tatoueurs, à l'histoire du tatouage, à plein de tatoueurs différents. Et vu que je suis une personne, pareil, beaucoup tatouée, je savais déjà qu'il y avait des choses qui me plaisaient dans le tatouage. Et du coup, en mixant un peu mes inspirations et ce que j'aimais et ce que je faisais, petit à petit, j'ai réussi à voir que j'aimais bien travailler la couleur, j'aimais bien travailler avec telles aiguilles. Et au final, ça a donné mon style de maintenant, quoi.
Ouais.
Mais c'est à force de pratiquer que j'ai réussi à trouver... le style graphique que
oui,
j'aime
c'est
bien.
Ça. Un style, je lisais ça sur ton site, assez autour de l'enfance, non
ouais.
C'est ça, c'est naïf.
Mmh, carrément.
Très coloré aussi.
Ouais, tout à fait. J'aime beaucoup, je trouve les couleurs, c'est vachement plus intéressant à travailler que le noir et blanc, pour moi.
Ouais.
Il y a plein de tatoueurs qui ne seraient pas d'accord, mais moi je préfère travailler la couleur.
Parce que c'est plus cher la couleur, du coup, c'est
oui,
ça c'est
la
plus...
couleur, en fait, c'est vrai que c'est un investissement financier parce qu'il faut que tu achètes chaque encre, genre, donc ça coûte plus cher que si tu utilises que du noir et du gris. Mais c'est aussi, les encres, elles n'ont pas la même texture, elles sont beaucoup plus épaisses, donc ça se travaille pas pareil. Et il y a beaucoup de tatoueurs qui sont habitués aux encres hyper liquides en noir, qui, du coup, la couleur n'aiment pas du tout parce que c'est une autre facette et une autre technique du métier.
Ouais, j'avais une question par rapport à... quand tu t'entraînes pour tatouer, par exemple,
ouais.
Est-ce que c'est assez particulier, on est d'accord? Est-ce qu'il y a des moyens de passer par tatouer, entre guillemets, autre chose qui ne soit pas une personne?
Carrément.
Pour t'entraîner, tout simplement, à manier l'aiguille
Ouais, c'est une hyper bonne question. En fait, il y a plusieurs écoles. Maintenant, dans le tatouage, on va dire contemporain, tu peux acheter des fausses peaux. Et du coup, c'est des espèces de planches. Je pense que c'est du latex, mais en plastique, qui ressemble à la peau et tu peux t'entraîner dessus, mais c'est quand même pas tout à fait pareil. Et on va dire que les tatoueurs à l'ancienne, et moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé, il y a deux écoles aussi. C'est soit tu tatoues sur des pieds de porc ou des oreilles de porc que t'achètes chez le boucher, mais c'est un peu dégueu parce que de une, ça pue, et de deux, c'est un truc mort, c'est bizarre, mais...
Je comprends.
Voilà, et sinon, tu peux tatouer sur des fruits.
Ah oui, des oranges.
Oui,
non,
des oranges, des
non.
Bananes, des pomelos, tout ce qui est plus agrumes ou avec une peau un peu épaisse comme
ouais,
les bananes.
Ouais. Ok,
énorme ça.
Et du coup, ça fera jamais comme la peau et comme quelqu'un de vivant, mais ça te permet déjà de voir la profondeur d'aiguille et tout. C'est assez intéressant de tatouer sur des fruits, puis c'est rigolo. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on conseille souvent les gens, aux gens qui commencent de faire ça. Et ensuite, franchement, moi ce que j'ai fait, parce que je suis quelqu'un de pas très patient, c'est très vite je me suis tatouée sur moi d'abord, et après j'ai trouvé des amis qui étaient ok pour être cobayes, même si le tatou était moche, genre gratuitement,
ouais, okay.
Et qui m'ont fait un petit carnet de brouillon. Et j'ai revu récemment des amis que j'avais tatoués genre dans mes 10 premiers tatous et que c'est vraiment extrêmement moche, et j'étais un peu en mode bon, j'ai fait du progrès depuis, c'est bien. mais c'est cool aussi parce que, comment dire, même si tu tatoues sur des fruits, sur de la fausse peau ou sur des parties de porc, ça, c'est quand même les gens vivants, vu que la peau quand tu tatoues c'est vivant. C'est quand même,
ouais.
Tu retrouveras jamais la même sensation qu'en tatouant
ouais.
Quelqu'un.
C'est vu que c'est mort, c'est peut-être plus rigide également, non? Il y a de ça, ouais.
Oui, okay, puis okay. Les gens, ils bougent,
oui.
Genre la peau réagit. Et
oui, ouais,
coup,
ouais, c'est vrai, c'est vrai.
La meilleure école, c'est vraiment de trouver des potes qui sont OK pour sacrifier un bout.
Un bout de leur corps. OK, je comprends. D'accord.
Ouais.
Et pour se lancer et tatoueuse professionnelle, du coup, c'est ton cas maintenant, c'est oui, ça, depuis 2010, il me semble.
2020 en plus, parce qu'en 2010, c'était en seconde, donc je
d'accord,
pouvais
ok,
pas
oui, effectivement. J'avais vu, il me semble que tu avais passé le diplôme d'hygiène, c'est ça
oui.
Ça, c'était peut-être en 2010.
Je l'ai passé en 2020, juste avant le Covid, donc c'est sûr que c'est 2020. Et oui, en fait, quand tu es tatoueur en France professionnel, le seul truc qui est obligatoire, t'es pas du tout obligé d'avoir eu un apprentissage ou d'avoir eu une formation pour la technique, mais par contre, c'est obligatoire d'avoir une formation d'hygiène et salubrité qui dure 3 jours.
D'accord.
Et pendant 3 jours, donc, t'apprends les bases de comment gérer l'hygiène de ta salle de tatou, de ton matériel, comment gérer les déchets organiques aussi, ce genre de choses. Et n'importe qui peut la passer.
Ok, c'est
cool. Mais pour
ça.
Se déclarer, oui, c'est obligé d'avoir cette formation.
D'accord.
Ton métier, tu l'as appris en apprentissage, par exemple ?
Moi, je n'ai pas réussi à trouver d'apprentissage parce que j'ai commencé un peu à côté de mes études et surtout pour me tatouer moi au début parce que vu que je me faisais beaucoup tatouer, je me suis dit « Ah, ça peut faire des économies si je me tatoue !» Ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Mais j'avais un ami qui était tatoueur et qui du coup m'a montré les bases, donc je ne partais pas sans rien. Mais par contre, après, j'ai appris en autodidacte et du coup, ouais, j'ai appris sur le tas, quoi. Si des gens qui écoutent veulent se lancer dans le tatouage, trouver un apprentissage, c'est quand même mieux, parce que même si en autodidacte, tu finis par y arriver, il y a plein de petites erreurs que personne te corrige et du coup, tu perds beaucoup de temps par rapport à si t'es en apprentissage avec quelqu'un qui sait faire, quoi.
On a vu que tu faisais autre chose que du tatouage, comme des fanzines ou du design graphique, de l'illustration, de la photo.
Pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est qu'un fanzine, ce serait de définir ce que c'est.
Tout à fait.
S'il te plaît.
Avec plaisir. Un fanzine, en gros, c'est un magazine, mais qui est fait de manière artisanale. On utilise aussi le terme DIY pour do it yourself, qui est un terme qui a beaucoup émergé dans la culture punk, encore une fois. Et du coup, c'est un fanzine artisanal qu'on fait notamment à partir de photocopieuses et juste de papier. Il n'y a pas forcément de très belles couvertures. Souvent, c'est en noir et blanc. Et parfois, la qualité est un peu, je vais le dire de manière pas du tout péjorative, mais un peu dégueu, dans le sens où le but, c'est pas que ça soit hyper beau, hyper classe, hyper léché.
Le fanzine, comment tu as découvert ça? Comment?
Mais en fait, quand j'étais plus jeune, genre quand j'étais ado, je suis vraiment tombée amoureuse de la culture punk, et notamment de la culture punk des années 70-80. Et le fanzine, les premiers fanzines viennent de cette culture-là, où à la base, c'était juste des magazines qui parlaient de musique et que les gens écrivaient eux-mêmes à la main, photocopiés, genre chez un marchand de journaux, et après se passaient entre eux. Et j'étais hyper fan de ça quand j'étais ado, et vu que j'ai eu la chance de grandir avec Internet, il y avait plein de fanzines des années 80 qui étaient plus trouvables papier, mais qu'on pouvait trouver en PDF sur Internet, et je me suis fait une grosse collection, je les ai tous imprimés, et je m'étais toujours dit, ah, quand je serai adulte, je ferai des fanzines aussi. Et du coup, je me suis lancée. Je crois que mon premier fanzine, c'est quand j'étais à la fac, et à l'époque, je faisais plus des fanzines plus littéraires, de poésie, ou alors un peu plus politique. Genre, un des premiers fanzines que j'ai fait, c'était sur la condition des migrants sur l'île de Lesbos en Grèce.
Oui, ok.
Et du coup, à la base, je faisais plus des fanzines comme ça, et petit à petit, c'est devenu des fanzines plus artistiques, où là, en ce moment, je fais plus des fanzines autour de la cuisine et des recueils de recettes.
Ouais.
Mais ouais, ça vient vraiment de la culture punk et du fait que j'étais hyper fan de punk quand j'étais plus jeune.
J'allais te demander s'il y avait une sorte de message que t'aimais bien récurrent dans tes fanzines, de un peu militant ou quoi que ce soit.
Moi, c'est vrai que là, dans les fanzines que je fais maintenant, je fais plus que des fanzines collectifs où je demande aux gens de me partager des choses, et notamment c'est pour ça que j'ai pris l'axe des recettes de cuisine, parce que je trouve que tout le monde a des choses à partager en cuisine, et le but de ces fanzines collectifs, c'est que n'importe qui, même des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui ont l'impression qu'ils sont pas artistes, puissent participer. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est de montrer que n'importe qui, s'il a envie, peut faire des fanzines, qu'il n'y a vraiment pas besoin d'être graphiste ou illustrateur pour pouvoir réaliser des choses. Et c'est vraiment ce qui m'a plu dans la culture fanzine dès le début, depuis que je suis ado, c'est que même avec un niveau à peu près zéro en tout ce que tu veux, tu peux toujours écrire un truc sur Word et l'imprimer et en faire un fanzine. Et c'est ce que j'essaye de véhiculer encore aujourd'hui. Même si moi, j'ai un peu plus de niveau graphiquement maintenant qu'il y a quelques années.
Ouais, on a vu que tu faisais beaucoup de projets aussi... Souvent en groupe,
oui.
Ou peut-être avec des assos, je sais pas.
Oui.
Du coup, qu'est-ce que ça t'apporte? Peut-être les projets en groupe plus qu'individuels?
Du coup, j'ai deux facettes dans mon métier. J'ai une facette qui est axée sur le tatouage, où même si je suis pas seule parce que je tatoue des gens, l'aspect travail et dessin, je suis vraiment seule. Et du coup, c'est vrai que ça me manquait de travailler avec des gens et rencontrer des gens avec qui partager des choses. Et c'est pour ça que je fais beaucoup, encore une fois, de fanzine collectif ou que je travaille avec des assos, juste parce que je considère que tout le monde a quelque chose à dire et a quelque chose à apporter. Et que moi, je suis un peu un intermédiaire qui permet d'apporter sur un support le message des autres gens. Notamment là récemment, j'ai travaillé avec trois amis artistes sur un fanzine. Ouais, c'est un peu difficile à expliquer, mais en gros, en Aveyron, il y a beaucoup de communautés qui viennent d'ailleurs en Europe. Et notamment, il y a des communautés espagnoles, il y a aussi des personnes qui sont kurdes, etc. Et du coup, on a fait un fanzine pour montrer qu'en Aveyron, qui est quand même une zone très rurale, et où il y a beaucoup de gens qui votent extrême droite, on va pas se mentir, il y a aussi plein de gens qui viennent d'horizons différents. Et en fait, on a fait ça avec une association qui s'appelle Mescladis, qui est basée à Decazeville. Et ça nous a permis de rencontrer des gens qui auraient jamais pu porter cette voix si on l'avait pas fait. Et c'était hyper enrichissant, et en plus c'était entre les deux tours des législatives, donc c'était d'autant plus nécessaire. C'est tombé comme ça, on n'avait pas prévu les législatives. Et du coup, oui, ça m'a appris des choses personnellement, et ça m'a permis de vraiment de pouvoir aider ces gens à parler de leur histoire, et c'était hyper chouette comme projet.
Mmh. Oui, j'ai vu que tu avais fait un fanzine, il me semble, sur toutes les langues ou dialectes en Aveyron, non?
C'est oui, pas mais ça. C'est celui-là.
C'est exactement celui-là. Ouais.
Tout à fait.
Et qu'est-ce que tu es venu faire à Radio Caravane? Qu'est-ce que tu es venu nous proposer?
Eh bien, je suis ici pour justement animer un atelier fanzine avec les personnes de la promo, de cette 14e promo. Et du coup, pareil, avec le but que tout le monde partage quelque chose et qu'on construise ensemble un fanzine en quelques heures, quoi.
Pour revenir à tout ce que tu fait comme activité, est-ce que tu arrives à facilement jongler avec tout ça, la photo, le tatouage, l'illustration, les fanzines? Est-ce que c'est...
J'y arrive, parce que ça fait 4 ans que je le fais, mais c'est pas toujours facile. Et il y a des moments où je suis vraiment obligée de mettre des activités en pause pour en faire d'autres. Notamment quand j'ai des projets de fanzines, et quand je fais par exemple les fanzines de recettes, je fais tout de A à Z seul, de la mise en page jusqu'au produit fini, donc tout le façonnage, toute l'impression, etc. Et c'est vrai que dans ces moments-là, je mets mon activité de tatouage en pause. Une des choses hyper bien avec le statut d'auto-entrepreneur et le statut d'artiste, c'est que tu peux vraiment aménager ton temps comme tu veux. Moi, c'est un statut professionnel qui me va, parce que quand j'ai un gros projet, je peux prendre un mois où je fais que ça, et après, pendant un mois, je vais que tatouer. Et voilà, j'ai cette liberté-là qui est assez chouette.
Est-ce que, donc on avait une question aussi concernant ton nom d'artiste.
Ouais.
Est-ce que c'est un pseudonyme? Est-ce que c'est ton vrai nom?
Totalement un pseudonyme. Mmh. En fait, c'est un pseudonyme que j'ai depuis hyper longtemps. Pareil, au-delà de la culture punk, j'ai beaucoup traîné dans la culture internet. Parce que, genre, moi j'ai 30 ans et du coup, internet, ça a vraiment explosé quand j'étais ado, donc c'était super. Et quand j'étais ado, j'étais fan donc de punk, de post-punk, et notamment d'un groupe qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, Joy Division. Et le chanteur de Joy Division s'appelle Ian Curtis. Et j'étais vraiment genre en idolâtrie, j'ai eu une grosse phase de groupie sur lui, et du coup, ce pseudo-là date de l'époque d'Internet quand j'avais 15-16 ans, avec, donc j'ai pris le nom de famille de Ian Curtis parce que je trouvais ça trop stylé, tout simplement, et le V qui est au milieu, c'est parce que mon vrai nom de famille commence par V, et que j'étais aussi fan de manga et de One Piece, et que je trouvais que mon Monkey D. Luffy, c'était trop stylé, et
je me suis...
C'est vrai?
Oui, ah, je savais.
Ça fait plaisir que des gens voient la ref, c'est genre, ça me fait trop plaisir. Et du coup, oui, j'ai vraiment, genre, j'ai fait Léa V. Curtis.
Volonté du V.
Tout à fait.
C'est lent. Mais est-ce que tu aurais un site, une page Insta peut-être, quelque chose où on pourrait retrouver tes actus, ce que tu fais, ce que tu peux poster en ligne?
Oui, carrément. Alors, j'ai un site internet qui s'appelle leavcurtis.fr. Mm-hmm. Et après, pareil, j'ai une page Instagram que je mets à jour plus souvent, lea.v.curtis.
D'accord, ok, très bien. Et merci Léa, c'est
merci
terminé.
Beaucoup.
Ouais, merci
beaucoup.
Merci à vous.
C'était Radio Caravane avec Léa V. Curtis. À bientôt pour de nouvelles rencontres.
Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle, proposé par la Grainerie et les associations Média Commun et Yves Assam Studio.
Un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web média.
Ils et elles couvrent la programmation de la Grainerie en réalisant des émissions et interviews diffusées sur une dizaine de radios partenaires.
Ce programme est placé sous licence libre Creative Commons, attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.
Retrouvez tous les podcasts sur radiocaravane.net.